de la BD, épisode 277. Au sommaire cette semaine, rencontre avec Florent de Manga d'Occase, librairie spécialisée de Lille. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD, la dernière de cette année 2022. Et comme on s'est dit qu'on a très peu abordé le genre de bande dessinée qui se vend le plus, à savoir le manga, Thibaut et moi, courant octobre, on a été à Lille dans le cadre du Festival des Livres d'en Haut, on a rencontré Florent qui est un peu le spécialiste régional, puisqu'il a créé sa librairie spécialisée manga il y a déjà plusieurs années et il était d'accord pour nous accorder trois quarts d'heure d'émission. Toujours au Bazar Saint-Saul pour le Festival des Livres d'en Haut. Rendez-vous a été pris il y a un an avec Florent de Manga d'Occase, un peu comme ce qui s'est passé avec Max Faraday. Il n'est jamais venu à Arras parce que Arras c'est loin pour tout le monde.
c'est pas vrai.
Donc on profite de ce festival pour accueillir parmi nous Florent. Bonjour.
Merci de m'accueillir.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors, Florent, 44 ans, je dirais mon âge, parce que ça peut avoir une incidence sur certaines choses après. J'ai ouvert ma librairie SP Manga il y a 7 ans, c'est un projet qui date d'il y a plus de 20 ans. Mais il y a 10 ans, je l'ai renclenché parce que je n'étais plus bien là où j'étais. Voilà. Je travaillais dans une grande entreprise, une grosse société, et puis ça ne me plaisait plus. Je voulais vraiment reprendre ma vie professionnelle en main, et puis pourquoi pas vivre d'une passion qui m'anime depuis que je suis ado. Donc voilà. Donc, et au final, ça fait 7 ans que Manga d'Occase a vu le jour. Dans le centre de Lille, derrière l'opéra, au 7 rue de la Clé. Voilà, on fait du neuf, de l'occasion, et tout ce qui est produit dérivé à côté. Voilà.
Des sabres, tout ça.
Tout à fait, tout ce qui peut se vendre et qui intéresse les gens. Voilà.
Et pourquoi le manga?
Pourquoi le manga? Pour la faire en version courte, donc je suis de 78. Dessin animé japonais à la télé, alors pas que japonais, il y a aussi tout ce qui est Tortue Ninja, tout ça. Il n'y avait pas que du japonais, mais il y avait du japonais, et puis beaucoup de jeux vidéo. Et là par contre c'était quasiment que du japonais parce que moi je jouais sur console. Et console c'est Nintendo, c'est Sega, c'est voilà à l'époque. Et en version japonaise parce qu'en France t'avais pas beaucoup de choses qui étaient importées ou qui arrivaient 3-4 ans après. Donc on faisait beaucoup d'importations. Donc on prenait pas toujours tout, mais pour les jeux de baston ou pour voilà. Et donc très lié à l'univers nippon. Et puis à un moment donné on découvre avec les magazines comme Animeland, comme Tsunami, que ce qu'on peut voir à la télé, ben, les dessins animés, c'est des adaptations d'un format papier, manga, et ces adaptations sont souvent censurées, voire mal traduites parce qu'ils s'en foutent un peu, et puis que voilà quoi, c'est pour les gosses, hein, donc on s'en fout, c'est pas important. Mmh. Et donc 94-95 arrive Tonkam, arrive J'ai lu. Et là, on a le droit à des versions fidèles de l'auteur. Parce qu'on a la version de base, la version originale, pas la version animée. Et en tout cas, beaucoup plus respectée que la version animée.
Ouais, donc, j'ai lu, c'était. Alors, Nicky Larson, pas City
Hunter. Ah, t'avais City Hunter, t'avais Fly qui était vendu genre 25 francs, 27 francs.
Les premiers. Olivier Tom.
Tout à fait, Captain Tsubasa, exactement.
Ouais, alors j'ai les noms de l'époque, c'est pour ça.
Oui, on est bon, c'est ça. C'était même marqué, effectivement, en gros, City Hunter, c'était marqué Nicky Larson, City Hunter. T'avais les deux titres. Le nom de la série animée en version française.
Ouais, le nom connu en France.
Et la version du manga pour les un peu plus puristes. Tu sentais qu'il y avait un vrai boulot, par j'ai lu en tout cas, un vrai boulot de respecter l'œuvre japonaise. Tu avais une vraie belle jaquette japonaise, alors que tu regardais Glénat à l'époque, Dragon Ball, c'était tout moche.
De mémoire, ils numérotaient les bulles non plus. Enfin, les cases étaient numérotées pour avoir le sens de lecture.
Tout à fait, ouais, c'est ça, exactement, dans les premiers, exactement. Bah oui, parce que c'était tout récent, tout nouveau, d'avoir le manga en vrai sens de lecture japonais, donc à l'envers. Alors Glénat mettait tout en version française, c'est-à-dire que de gauche à droite.
Puis, tous les personnages étaient gauchers.
Oui. On a eu du Cobra avec son psychogun dans le mauvais bras parce que les planches étaient renversées. on a eu des trucs comme ça. Après, bon, aujourd'hui, c'est plus tout le même délire. Hein, c'est beaucoup plus respecté.
Et du coup, pourquoi le manga et pas le jeu vidéo?
Alors
pourquoi une boutique de manga et pas une boutique de
C'est très simple, parce que merci Jacques Lang, loi de 81, qui protège les prix. Parce que jeu vidéo, j'aurais aimé, hein. Mais moi, j'ai vu le marché du jeu vidéo se faire démonter et démembrer par les grosses structures. Aujourd'hui, trouve-moi sur l'île un indé de jeux vidéo, t'en as quasiment plus.
Et puis voilà, la fibre a fini de faire le boulot où maintenant les mecs se déplacent plus, ils téléchargent le...
Alors c'est vrai, mais t'as aussi, comme pour tout le reste, hein, t'as aussi les passionnés. Moi j'achète, j'ai pas le temps de jouer à tout, pourtant j'achète plein de boîtes physiques, des versions collector que j'ouvre jamais, parce que aujourd'hui t'as un public de collectionneurs qui peuvent se permettre aussi d'acheter des fois des trucs un peu plus chers.
Ça, dans le manga, c'est un public qui existe aussi, on en parle beaucoup dans le franco-belge, un peu dans le comics.
T'as tous les versions, tous les pseudo-collecteurs qui sortent des fois, qui avec 6 badges tout moisi, mais les gens se les arrachent, quoi. Ça apporte rien de plus, mais c'est une version collector avec une jaquette alternative ou pas.
Et cette clientèle de manga aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore le même chemin que nous à l'époque, que toi en l'occurrence, c'est-à-dire découvrir un animé et basculer sur de la lecture manga après? Est-ce que ça se fait exactement dans les mêmes conditions que ce que toi t'as vécu?
Alors, même condition, j'imagine que non, parce que nous déjà, on n'avait pas le choix. À la télé, tu avais peu de chaînes, et merci celles qui passaient pour la 20e fois le même animé que tu as vu, et des fois recensuré d'année en année, parce que le CSA, Famille de France, passait par là. Et des fois avec trois mecs différents au doublage du même personnage, parce que voilà.
Ah, personnellement, moi je comprends pas que Dorothée elle soit pas chevalier des arts et lettres.
Ah ouais?
Ah ben, elle devrait avoir, elle a contribué tellement.
On discute, toi et moi.
Il n'y a pas que ça, il y a même les erreurs sur le genre de certains persos.
Oh, mais écoute,
Andromène, notamment moi, dans les Chevaliers du Zodiac.
Moi, début, moi quand je vois que les gens encensent Dorothée, je ne vais pas me faire des amis. Hein, mais alors, moi, je le crache à la gueule. Hein. Voilà. Après, alors tu vois.
Bernard Minet, on parlera de Bernard Minet plus tard.
Ah non. tu veux une anecdote, Bernard Minet?
Vas-y,
Bernard
balance. Minet,
on est en 2000. Moi, je suis amiénois de base. Le mec, il vient à une discothèque qui s'appelle le Nemo à Amiens. Le mec, à l'époque, il n'était pas du tout en mode hype. Au contraire, c'était un vieux loser. On prend un flyer où il y avait son nom dessus. Voilà. On va lui faire dédicacer. Donc, le gars dédicace son flyer. Tout content qu'il y a un mec qui vient de le voir pour faire dédicacer. Et devant lui, j'ai pris le flyer, je l'ai chiffonné, je l'ai jeté à ses pieds. Voilà.
Ah bah bravo.
Non mais quand tu vois les génériques de merde qu'ils nous ont fait à AB Productions, je suis désolé. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui jouent sur la nostalgie. Moi j'avais déjà 16, 17, 18 ans. On avait des cassettes par casier justement, tu vois, avec des génériques japonais. La première fois que j'ai vu les OAV de Ranma avec le générique japonais, j'ai dit mais c'est incroyable.
On s'est fait bananer.
Les films d'animation Dragon Ball avec le Chala et Chala que l'on connaît, je suis désolé, à l'époque c'était Bernard Minet qui chantait Ariane. Dragon Ball Z.
Non mais après ils ont eu la décence
de laisser tranquille.
Ils ont eu la décence de laisser Corbier dans les coulisses au moment où ils ont fait les enregistrements.
On pourra en parler de tout ça après, je comprends hein, quand t'es plus jeune et que.
Mais et du coup aujourd'hui eux ils ont il y a encore des animés qui passent le matin, même si on n'est pas vraiment sur les mêmes production, ni les mêmes contenus. Il y a aussi beaucoup de plateformes
bien sûr.
Qui se mettent à l'animé.
Tout à
fait. Toi, tu constates un mouvement comme ça, quand il y a un animé qui sort sur plateforme, il y a du monde qui débarque en boutique.
C'est un raz-de-marée. C'est-à-dire que nous, on peut parler chiffres hein, pour que ça soit plus concret. Un truc qu'on aime bien, qu'on essaye de pousser, on va le vendre par 30.
Ouais.
Tu vois, on va partir de Tokyo Revenger, qui est un truc, voilà, Furio Manga, bref. Avec un peu de science-fiction. Bon, le truc pas vraiment prêt à attirer du monde, théoriquement, parce que le Furio en France, ça ne marche pas. Et puis bon, voilà, science-fiction, donc bon, bref, c'est pas... On les vend par 30 parce qu'on pousse, qu'on aime bien, parce que voilà, l'animé arrive, on les prend par 300 maintenant.
Ouais.
Tu fais un x10. Après, les gens, ce que souvent les gens ne savent pas...
Mais ils viennent plus chercher de conseils. C'est qu'à ce moment-là, ils arrivent et ils viennent...
Ils savent pertinemment, ils savent ce qu'ils veulent.
Ouais,
c'est le truc à la mode, qui passe en animé. Et donc, genre 2 ans avant, tu en as parlé, le mec, t'as même pas calculé, quoi. Et 2 ans plus tard, il revient dans ta boutique, il dit « Ah, tu as Tokyo Revenger ?» Bah ouais, mec, ça fait 3 ans qu'on essaie de te le vendre. Oh, c'est génial, ce truc. Ouais, okay,
mais c'est pas à la fois, en tant que libraire, alors facile pour les ventes, une fois qu'il y a le passage d'animation, et frustrant.
Ah bah totalement, C'est-à-dire que moi, en ouvrant une boutique SP, je pensais pas un jour, maintenant, on est 5 en boutique, c'est-à-dire que j'ai 4 personnes avec moi. Donc ça tourne, ça c'est cool. Seulement, je pensais pas en ouvrant une boutique SP, effectivement, vendre un peu comme partout ailleurs. C'est-à-dire que même des boutiques non SP, ils vont te faire la loi de Pareto sur les mangas, les 20-80, les 20% de ce qui 80% du chiffre d'affaires, ce qui représente, voilà. Donc les blockbusters en fait. Bah, même chez nous, c'est comme ça. Après, effectivement, on propose d'autres choses à côté pour ceux qui nous le demandent, pour ceux qui ont envie de découvrir d'autres choses que les blockbusters. Mais la vérité, si la boutique elle tourne, c'est grâce aux blockbusters.
Il y a un autre petit sujet qui est un peu dans cette, dans cette période un peu frustrante, dans cette thématique frustration, le chèque culture.
Non, le pass culture.
Le pass, pardon, culture.
Oui, le pass culture.
Alors, est-ce que du coup, voilà, ce qu'on voit d'extérieur, pas mal de jeunes qui vont en librairie avec ce pass. Est-ce qu'il est consacré, est-ce que là c'est une ouverture pour aller au-delà de je viens chercher en papier l'animé qui est à la mode. Est-ce que ça représente une petite opportunité quand même de basculer sur autre chose, d'ouvrir les horizons de lecture de ces lecteurs-là?
Ben, je te dirais malheureusement non. De ce que je vois moi, pour parler en général, parce que forcément voilà, non, c'est justement, c'est le mec il est au tome 20 de One Piece, parce que la vérité c'est que c'est 7€ un manga, c'est quand même un budget. Tout le monde peut pas se permettre d'acheter des mangas parce que ça coûte. Quand on achète 3, tu le lis en 1h30, c'est 20 balles. Voilà. Alors même si tu vas les relire, même si machin, donc là les mecs effectivement ils se font plaisir, ils se mettent à jour sur Jojo, sur One Piece, sur Berserk, des grosses séries qui sont à la mode ou pas, mais qu'ils n'ont jamais pu se permettre d'acheter.
De faire ou de compléter.
Bien sûr, parce que nous on a un public où sincèrement, si les mecs ils étaient en mode j'ai tout l'argent du monde, ils achèteraient la boutique, hein, tous. Hein.
Ouais, bien sûr.
Parce que
c'est aussi un gros public qui fonctionne à l'argent de poche.
Ah mais totalement.
Mais est-ce qu'ils déliraient les bouquins?
Voilà, c'est un débat.
Un peu comme moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter quasiment tout ce que je veux, ça c'est cool, parce que d'autant plus que je bosse dedans. Après, c'est une question de temps. Bah, après, la vérité, c'est comme tout le monde. Hein. Quand t'es jeune, t'as 4 mois de vacances par an, et voilà. Le jour où tu commences à travailler, femme, des gosses, la maison, t'achètes, tu retapes, ton temps libre, il est divisé par 10. Hein. Après, malheureusement, on est tous passés par là. Pendant des années, j'ai raté le manga, parce que d'une part, j'avais plus l'argent, de deux, j'avais plus le temps. Après, quand c'est une vraie passion, tu y reviens toujours. Hein. Mmh. C'est pas un problème, ça. Hein. Et c'est rigolo. Moi, il y a des clients, quand j'ai ouvert il y a 7 ans, ils avaient 15-16 ans. Ils sont passés par les études supérieures, les chouilles entre potes, et découvrent les amours et le cul. Et puis, du coup, tu les vois revenir, tu vois. Pendant 2-3 ans, tu les as pas vus. Puis, oh, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Bah, ah, bah ouais, machin. C'est rigolo, parce que finalement, si c'est une vraie passion, tu y reviens toujours.
J'étais en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylée la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète. Qui pique cette dick sous l'idée à Little Elite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre que sa campagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec top soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette.
Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque galipette. Des jouettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète.
On parle de beaucoup de l'explosion du manga depuis, alors surtout la sortie du confinement au niveau des chiffres de vente.
C'est vrai.
Plus d'une BD sur deux en France est un manga. Moi, j'ai l'impression, en regardant de loin, sans vérifier les chiffres, c'est que, un peu comme la BD franco-belge, c'est les 10, 15 mêmes séries qui tirent tout le marché.
Bah, voilà. Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est un peu problématique pour moi, parce que toi, tu ouvres une boutique SP en espérant justement mettre en avant des trucs un peu moins, voilà. Bah non, les gens ils viennent chercher les 10 blockbusters qui cartonnent. Mais je pense que malheureusement c'est vrai même partout, tu vois. On voit des franco-belges en jeux vidéo, en musique, hein.
En roman.
Tout. Il y a des mecs qui. Je pense que malheureusement c'est comme ça. Tous les marchés sont comme ça.
Ouais, alors je vais faire le vieux con, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. À notre époque, enfin je dis pas qu'on fuyait le mainstream et compagnie.
Ouais, je fais pas du commercial. On le disait déjà à notre époque, mais c'est quoi le commercial? Dès que tu mets un prix de vente, dès que tu vends, tu veux faire de l'argent.
Non, mais même arrêter. Pas faire du commercial. Tu vois, au début des années 90, dire je vais lire du manga, c'était. Ça te mettait dans un coin.
Tu t'es montré du doigt. Alors t'imagines, j'ai fait du manga, du jeu vidéo, j'écoutais du hip-hop, je faisais du roller. Putain, j'étais le mec à bannir, je faisais jamais rien de ma vie, quoi. Bon, aujourd'hui, ma mère est rassurée, tu vois. quand j'ai remonté le projet il y a 10 ans et que je lui ai dit je veux, elle m'a dit non, fais pas ça, quoi.
Ah, et puis aujourd'hui, c'est sur PFM, quoi, consécration.
Carrément. c'est là qu'on voit que j'ai percé. Merci les mecs.
On t'invitera dans une autre émission pour rapper.
Ah, si tu veux, mon Dieu. Mais même toi, même si on parle en hip-hop, machin, hip-hop aujourd'hui, tu écoutes les hip-hop des années 90, qui pouvaient être critiqués, où les mecs avaient quand même, je trouve, un minimum de texte, qu'on soit d'accord ou pas, mais un minimum de texte. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vide et c'est creux, hein. Je trouve, pour une majorité de ceux qui percent. Après, il y en reste plein derrière qui sont des vrais lyricistes et qui écrivent des trucs de dingue. Tu les entends pas à la radio. Les mecs, ils ont du mal même à percer sur YouTube. Hein. Parce que c'est parce que les mecs, les gamins, ils écoutent. Je pense que c'est vrai pour plein de choses. Hein. Regarde les consoles, on va parler consoles de jeux.
Ouais.
Qu'est-ce qui est sorti il y a deux jours et qui a tout trusté chez Micromania? C'est FIFA.
Eh ouais.
Voilà.
Avec Kiki en couverture.
Voilà. Et c'est rigolo parce que moi, j'ai des clients qui travaillent genre à Micromania, qui sont en mode désespéré comme moi, quoi. Ils sont dans une boutique de jeux vidéo pour vendre du JRPG japonais, des trucs un peu spé, des trucs un peu machin, et ils vendent du FIFA à tour de bras.
Ouais, mais bon, ça.
Et ils pleurent.
Mais
tu fais de l'argent.
C'est ça. Ouais. C'est aussi.
Pour vendre de temps en temps un truc un peu spé qui est vraiment, vraiment bien, qui sort du.
Ça vient alimenter, c'est ce qui permet de faire à côté.
Bien sûr.
Dans des proportions.
Si tu te fermes là-dessus, t'es mort.
Bah, c'est ça.
Faut faire aussi du business. Tu fais de la passion, mais tu fais aussi du business. Voilà. Faut faire les deux.
Pour revenir aux lectures, t'avais encore des questions business.
Ouais, j'ai encore des un peu de tout. Alors j'ai l'impression, pour avoir connu les années 90, que ce qui sortait, c'est des choses alors plus adultes, avec des gros guillemets, et que depuis le début de notre beau 21e siècle. Alors s'il faut mettre une date, je dirais que c'est l'arrivée de Naruto en France. C'est le retour absolu du shonen qui écrase tout.
Oui. Oui, en fait, 90, Glénat, ils acquièrent les droits d'Akira par les Américains, via les Américains. Je sais pas trop comment, mais enfin, Glénat, 30 ans de manga, et grâce à eux, on a Akira en version colorisée. Et puis, ils vont attendre pas mal d'années avant de sortir du Dragon Ball parce qu'ils se disent peut-être du fric à faire sur le dos des jeunes. Comme l'animé fonctionne et performe depuis des années, il y a peut-être un peu de thunes à faire. Avec des jaquettes dégueulasses, sens de lecture, machin.
Il y a eu 4-5 ans entre Akira et Dragon Ball, non?
Ah ouais, largement. Bah, Akira, ça doit être 90, Dragon Ball, je sais pas, 95, 96, les mangas.
Ça, il y a peut-être des exemplaires dans vos bibliothèques que vous pouvez retrouver, hein, des trucs collecteurs où vous aurez l'exemple entre les mains de ce qu'on a.
Alors, il y a pire, il y a les demi-tops qui sortaient en maison de la presse.
Ouais, en kiosque, quoi. Qui était à 13 ou 20 balles, 18 francs. C'est une escroquerie, t'avais 20 pages et c'était 18 francs.
Ouais, mais t'avais pas des goodies avec?
Non.
C'était vraiment le bouquin tout ça.
T'avais Dragon Ball, t'avais Gum, Battle Angel Alita,
ouais.
Qui sortait en version kiosque, et puis après, voilà. Mais non, mais grâce à ça, on a eu aussi tout ce qui est Shiro, Masamune Shiro, donc on a eu les Apple Seed, les machins, on a eu des trucs qui sont pas trop vendus, qui étaient aussi pour une part édités chez Tonkam. En Black Magic, au Dominion Tonpolis, c'était Tonkam qui le faisait, à l'époque, pour les récupérer, il fallait aller à Paris. la boutique de Tonkam, parce que c'était pas distribué dans les.
Au départ, c'était un libraire.
Ouais, tout à fait.
Qui est devenu maison d'édition.
Exactement. Et qui s'est fait racheter par Delcourt et qui aujourd'hui.
Ils sont pas redevenus indépendants, là.
Ah non.
Ouais, mais
ah
il semble. Enfin, il y a.
Le patron de Tonkam, il a fait plein d'autres trucs entre deux, et voilà. Ils avaient fait le magazine Tsunami à l'époque, qui parlait de la culture japonaise, pas que manga, culture japonaise, K-pop, mon dieu, J-pop.
Ouais. Cosplay déjà ?
Ouais, carrément, ouais. T'avais accès, c'est grâce à eux, enfin moi, grâce à Tsunami, magazine Tsunami, j'ai découvert énormément de choses sur la culture japonaise et tout l'univers entertainment japonais. Quoi.
Bah, t'as les magazines de jeux vidéo aussi à l'époque.
Les Joypad. C'est-à-dire qu'avant que Joypad et consoles Plus sortent, t'avais des tilts, t'avais les joysticks. Parce que
c'était traité dedans.
Parce que les consoles, ils vendaient pas grand-chose. Et après, ils ont fait seulement les magazines.
Et alors, Player One avait sorti des manga Player.
Ah oui, magazine de prépublication, machin et tout. Puis après, ils ont été rachetés. Manga Player, c'est Pika.
Ouais, tout à fait. Donc, l'éditeur de L'Attaque des Titans.
Tout à fait.
L'Atelier des Sorciers.
Oui.
Les gros.
Ouais.
Les trucs dont on a déjà parlé. Alors du coup, je finis ma question. J'ai l'impression qu'au niveau surexploitation de la culture populaire, on est sur la queue de comète des années 80. En comics, on voit revenir vraiment un gros revival des années 90. Est-ce que ça, en manga, tu penses que c'est la nostalgie des années 90 et des choses plus adultes qui va revenir ? Alors je dis pas qu'Akira va faire les chiffres de vente de One Piece, parce que je pense pas.
Alors, ce qui est vrai, c'est que des choses qui avaient été oubliées par certains éditeurs sont rééditées, alors soit rééditées dans leur jus tel qu'ils étaient il y a 10, 15, 20 ans, soit une nouvelle édition. Voilà, donc des choses qui n'avaient pas été terminées, style Sanctuary, style qui à l'époque, Glénat avait sorti 2 tomes, ça marchait pas, hop, ils avaient arrêté. Repris par l'époque, je crois, Kabuto presque 10, 15 ans après, Kabuto maison d'édition qui a fermé. Glénat qui reprend les droits et qui ressort Sanctuary, bon c'est cool. Moi je le vois en termes de vente, j'essaie de le pousser, c'est pas foufou. Hein. Réellement les séries des années 90, ouais tu mets Dragon Ball et d'autres trucs qui sont intergénérationnels parce que tonton il en parle, parce que même tata elle en parle.
Ouais, à la limite tes parents sont fiers de te filer un billet pour que t'achètes ça parce que.
Mais les autres trucs ils le faisaient pas. Mmh. Ils étaient pas comme moi, eux regardaient les animés qui passaient au Club Dorothée, ok super, ils vénèrent le Club Dorothée, ok super, ils lisaient pas de manga. Donc Sanctuary qui ressort, moi je suis déçu, mais tu peux même pas imaginer quoi. Les dessins de Ryuichi Kigami sont magnifiques, je trouve que l'histoire, j'avais peur que l'histoire ait mal vieilli, parce que je l'ai relu il y a plus de 15 ans, j'avais peur que ça ait mal vieilli, et j'ai repris une claque, et on vend, je vais pas dire rien, mais sur conseil, il faut le pousser quoi, c'est pas normal. En 2022 avec les ventes, Que fait les mangas aujourd'hui, c'est pas normal d'être obligé de pousser un titre comme celui-là. Quoi.
Est-ce que c'est difficile de faire émerger des auteurs dans le manga ou pas ?
Des auteurs français ou
des auteurs au sens large, la notion d'auteur comme tu peux avoir ou dans le cinéma ou dans la BD.
Alors je te dirais oui jusqu'au moment où il passe à Angoulême, jusqu'au moment où un magazine comme Atom va en parler. Ça les met en lumière, Asano. Voilà, Asano, moi depuis 7 ans, le magasin est ouvert, on vend du Asano. On vendait difficilement du Asano. Depuis 2 ans, 3 ans, on dit « Ah, t'as du Asano ?» Forcément, j'ai du Asano. Mmh. J'ai pas attendu que... Mais pour eux, c'est normal. Que je le fasse là maintenant, parce qu'on en parle, ça serait normal. Mais en fait, mec, ça fait 15 ans, 10 ans que Kana en fait. Là, je suis bien content pour Kana, hein, parce qu'ils ont un putain de catalogue. Et à part Naruto, je suis désolé de le dire, mais c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai fait des trucs. J'ai eu des séries en fond de rayon dès l'ouverture du magasin. 7 ans plus tard, j'ai toujours pas vendu... Des fois un tome.
Oui, mais comme pour toi en boutique, c'est Naruto qui finance aussi le reste d'un catalogue.
Ah oui, carrément. Donc ce qui est cool, c'est qu'à un moment donné, effectivement, t'as quand même des auteurs, des fois longtemps après, qui sont mis en lumière. Mm. Ça c'est cool, hein. Mais il faut attendre qu'un magazine, qu'à un moment donné, ça explose pour que.
Ouais, une adaptation, un magazine, un fait de société qui vient faire écho à un truc.
Tout à fait. Ouais. Et là, ce qui est cool, c'est qu'Angoulême, parce qu'à une époque, Angoulême, on peut en parler, hein, les mangas c'était pas du tout représenté et les mecs voulaient pas de manga à Angoulême. Depuis quelques années, ça a bien changé. Ils mettent en avant certains auteurs, certaines autrices.
Bah depuis qu'il y a, cool. Y a Xavier Guibert qui est dans le...
Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans ?
Ouais, un truc, ouais.
Voilà, bah, ça change tout, hein, franchement. C'est cool, hein. C'est cool parce que c'est pas manga, c'est pas montré du doigt. Bouh, c'est caca.
Depuis quelques temps, on voit des tentatives, alors par Kana, de donner des licences japonaises à des auteurs français. Il y a eu Albator, il y a eu Ouais. Goldorak, là il y a des Chevaliers du Zodiac,
tout à fait.
Les ventes dans une public, un magasin spé comme le tien, ça donne quoi?
Bah c'est pas foufou parce que c'est un format bande dessinée, c'est colorisé, c'est 15 balles, 18 balles, 13 euros. Si on en vend. On en vend, mais on n'en vend pas tant que ça, hein, parce que c'est pas le jeune public qui est attiré par un Saint Seiya, Chevalier du Zodiac. Mmh.
Moi, le jeune public, c'est les pères de famille, enfin les pères de tes clients plutôt.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, je suis l'exemple typique, hein, parce que c'est, j'ai un peu plus, j'ai consommé le Club Dorothée, tu vois, je suis l'archétype de ce que tu adores. et en fait, tu me parles, toi, Nico, des Chevaliers du Zodiac, tu l'as feuilleté, mais moi, mon souvenir des Chevaliers du Zodiac, c'est un, l'animé, deux, les figurines qui me faisaient rêver avec des armures de ma boule et j'en voulais toutes les dorées.
Ah, ben on est d'accord.
Voilà, et on les laissait dans le. Bref. Mais ça serait un plaisir patrimonial, un petit plaisir coupable de dire, allez, en loose day comme ça, hop, je prends un Saint Seiya. Non pas pour le lire et avoir le plaisir de retrouver. Les héros sur papier, mais pour le ranger dans une bibliothèque.
Non mais franchement, c'est quand même pas la classe que, parce que tous ces trucs là, toutes ces séries là qui sont adaptées par des auteurs français, c'est quand même validé par l'auteur original japonais, hein. C'est-à-dire que c'est quand même une petite fierté. Tu dire que toi, nous en France, on est toujours deuxième pays consommateur de manga à travers le monde parce que il y a que nous qui en consommions, donc c'est facile d'être, toi. Quand nous on consommait 14 millions il y a quelques années, ils sont à 700, 800 millions au Japon, donc c'est quand même pas la même goutte d'eau, tu vois, 800 millions, 14 millions. Bon, maintenant on est à 40 millions, c'est cool, mais bref, c'est quand même pas la même envergure. Et de se dire qu'ils sont OK pour que sur un marché français, tu vois, à l'autre bout du monde, ils laissent ses droits pour que ça soit adapté par un français, c'est quand même la classe, hein. Donc quand même reconnu. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même une fierté. Tu vois, okay. Albator de Jérôme Alquier, il est classe. Le Goldorak, c'est super bien vendu. Voilà. Et là, le Saint Seiya, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. C'est quand même la classe, je trouve, que pour les auteurs français. Puis en termes de dessin, graphique, ils assurent, hein, les gars. C'est pas fait comme ça. C'est Jérôme Alquier, ce mec-là, il a fait il y a une quinzaine d'années, il faisait les jaquettes des box de IDP pour Jace, Conquérant de la Lumière et tout le reste. Aujourd'hui, le mec, c'est cool qu'il ait percé. Et il a un vrai talent et qu'il puisse faire autre chose que juste des jaquettes, un truc qui est vendu 10 ou 15 balles à Auchan, quoi.
Ouais. Voilà. Au milieu de tout ça, il y a une place pour le manga patrimonial, les grands anciens. Alors, avant son Tuari encore, et ouais, à part Tezuka.
Bah, Ishinomori, alors moi, je suis pas trop Tezuka, je suis plutôt Ishinomori. Le mec, il a quand même fait Kamen Rider, il a fait d'autres trucs. C'était un élève de Tezuka et finalement, il a produit beaucoup plus que Tezuka. Et puis moi, c'est plus ma cam. On a une clientèle qui en demande deux, mais c'est pas le grand public. Clairement, c'est pas le grand public. Donc, tu vois, ce qui est un peu moche, par exemple, Ishinomori, il a fait Cyborg 009. Il y avait genre une trentaine de tomes. Glénat, ils ont publié 26. À 3-4 de la fin, il dit bon, ben, on vend pas, on arrête. Je dis putain, les mecs ils ont Dragon Ball, Berserk, ils ont des séries de fou, ils font de l'argent à gogo. Pour les 4 derniers, les mecs, tu aurais pu faire l'effort de les sortir pour ceux qui ont acheté les 26 premiers mangas. C'est un peu moche, tu vois. Donc il y a quand même de la place. Par exemple, des mangas comme Ashitano Joe, tout ça, on en vend un peu. Parce qu'il y a un public qui avait 15, 16 ans, aujourd'hui il en a 20, 25. Grâce au magazine, grâce à des émissions un peu spé, toi, je viens de sortir Ashitano Joe, peut-être que les mecs ils vont dire c'est quoi Ashitano Joe, machin, ils vont regarder, il y a quand même des gens qui sont intéressés pour découvrir d'autres choses que tout ce qu'on leur balance à la tronche. Et qui vont découvrir des super trucs et voilà quoi. Et c'est vrai que Ashitano Joe, on l'a en fond de rayon. On en vend plus qu'il y a 7 ans, ça c'est vrai, mais on en vend que quelques-uns, quelques séries par an, quoi. C'est pas avec ça qu'on fait tourner le magasin. Hein. Par contre quand on en vend, ça fait plaisir. Et là tu discutes avec le mec, et là c'est cool. Parce que tu dis quoi, quand le gamin il a, j'ai le gamin, mais toi il a 18 ans, comment tu connais ça? Toi tu discutes avec lui, c'est cool. Et même lui, c'est plaisant pour lui de discuter avec son libraire, d'avoir une relation avec son libraire. Et puis souvent quand ils accrochent sur des séries comme ça, ils sont en demande là c'est eux, ils sont en demande de.
De conseils, d'orientation, de guide.
Ils viennent. Ah mais total. Et là c'est facile pour eux comme pour nous, parce qu'il y en a qui va être un peu plus effectivement sur du social, l'autre un peu plus sur de la science-fiction. Toi ils ont réédité L'école emportée. On avait l'ancienne édition Bunko un peu moche de Glénat, mais qui existait. On l'a toujours, on l'a fait toujours parce que c'est un peu historique, tu vois.
Voilà. C'était un plus petit format.
Ouais, Bunko, c'est ça. C'est un format qui existe au Japon, qui en France. Je ne sais pas pourquoi Glénat ont adapté ce format-là. C'est un peu plus épais, un peu moins cher. C'est-à-dire que les Urusei Yatsura, l'AMU en France, ça existe et c'est en version Bunko, un peu moche, un peu dégueulasse, mais tu peux l'avoir pour moins de 10 balles. T'as un beau pavé de lecture, voilà.
southern trees. Barren, strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. The rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves. Here is a strange and bitter cry.
J'aimerais bien que tu nous files quelques titres là par sous le prisme des catégories d'âge. Voilà, il y a un gamin de, je sais pas moi, 7 ans qui aimerait bien découvrir un truc, un autre de 10.
Ouais, carrément.
Voilà, est-ce que tu aurais quelques titres comme ça?
Alors, pour le public, alors maintenant, on fait en France, et les éditeurs se sont mis au Kodomo. Donc le Kodomo, c'est pour enfants. C'est des mangas pour enfants. Aujourd'hui, il y a du Kodomo. Donc avec des petites histoires de chats, tout mignon, il se passe pas grand chose. Donc,
Chi par exemple.
Par exemple.
Ouais. C'est du Kodomo. Mmh. C'est même colorisé, t'as pas beaucoup de choses à lire.
C'est en sens français en plus.
Alors là, Gléna l'a mis en sens français pour justement que ça soit un plus large public. Et ça peut se comprendre. Franchement, là c'est pas déconnant. T'as d'autres histoires comme ça pour. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas un large public. Les parents sont en demande quand même parce que les enfants, ils ont un grand frère qui lit Demon Slayer, qui lit le truc à la mode. Et le plus jeune, bah lui, il n'a pas le droit parce que ça tranche, ça découpe et que ça meurt. Donc les parents disent, bah, je voudrais du manga, mais pour son âge. Donc en France, on commence à avoir du Kodomo. Effectivement, Chi, c'est le plus vendu depuis 10 ans, 10-12 ans, largement. Après, dedans, tu as des petits trucs comme Yotsuba. Yotsuba, c'est une petite gamine de 6-8 ans qui.
Chez Kurokawa.
Je t'aurais dit oui, Kurokawa, tout à fait. Et en fait, cette gamine, tu vas la suivre dans des petites histoires courtes. Ils sont des petites histoires courtes, hein, parce que les gamins, ils peuvent pas lire 50 pages et puis avoir en plus des rebondissements de scénario sur des petites histoires courtes. Comme ça, ils lisent 10 pages, hop, ils reprennent 2 semaines plus tard, c'est pas bien grave. Il n'y a pas de fil rouge, mais tu suis cette gamine, c'est sympa. Ouais. Donc le Kodomo, c'est souvent des petites histoires courtes. Et c'est vrai que quand le gamin, il passe il veut un truc un peu plus consistant. Bah, là, il passe forcément en shonen, où là, c'est de la série. Là, tu as 10, 20, 30, 50 tomes, plus, et puis voilà. Donc, en série shonen, moi, à l'époque, ce qui m'avait... Je n'étais plus trop shonen, et pourtant, celui-là, il m'a un peu... C'est Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, mm-hmm. Ça dépend si tu prononces le X ou pas, machin. Là, Togashi, il a été vraiment bon, parce que moi, j'étais fan du Yu Yu Hakusho, merci Kana. Que je faisais les jeux en version japonaise sur Super Famicom ou Mega Drive.
Mega Drive, j'aurais dit. Ouais,
version Mega Drive. Je te jure qu'il se joue à 4 en même temps. Dinguerie.
On parle du même.
Dinguerie. Tu sais que je voulais faire un tournoi justement sur ce jeu-là pour l'anniversaire du magasin. Et puis finalement, on ne l'a pas fait parce que, voilà, parce que ce jeu, il est dingue, il est sous-estimé.
Si tu as besoin, j'ai 2 Mega Drive à la maison.
T'inquiète pas. Mais à la maison, t'inquiète pas.
Non, puis il faut des pucées, toi.
Non, moi, il n'y a pas besoin.
Non, mais lui, c'est cartouche jab.
Oui, non, mais moi, il n'y a pas besoin. J'ai la Mega Drive Mini, sur la Mega Drive Mini japonaise. Il est dessus.
Ah ouais.
Qu'il n'y a pas sur la version française. Avec manette 6 boutons. C'est vrai qu'Hunter c'était une claque parce que Togashi t'a fait un putain d'univers, t'as de quoi lire. C'est rare qu'un manga tu prennes une heure à le lire, quoi. Souvent c'est une demi-heure quand t'as un lecteur un peu tôt, tu lis vite, c'est une demi-heure. Là en une heure tu te dis putain, le mec il a fait un univers de dingue, il peut faire des trucs de fou. Bon, c'est con, c'est que 20 ans plus tard c'est un peu stand-by et puis voilà. Bon.
Mais il y a de quoi faire quand même sur ce qui est sorti.
Ah oui, carrément. Puis il y a encore des gens qui découvrent grâce à l'animé. Hein, l'animé
ouais,
qui
c'est revenu à la mode il y a 3-4 ans peut-être.
2016. Je crois qu'il y a un animé censuré de 2016. Et moi je pensais pas en ouvrant le magasin. Ah non, je dis de la merde, même avant 2012 ou 2014.
Ouais, mais auprès du grand public, j'aurais dit plus 2016, 2017.
Bah oui, parce que c'est dû passer certainement sur un ADN, un Crunchyroll, sur un je sais pas où, grand public, boum, et explosion. Donc quand j'ai ouvert le magasin, comment imaginer, moi qui pensais pousser Hunter, j'avais pas envie de pousser, les gens venaient chercher, ah t'as du Hunter, c'est trop bien. Ah, et la même chose sur Jojo. Jojo, à l'ouverture du magasin, l'animé n'était pas encore sorti. Alors pareil, Jojo a conseillé quoi. Après, on aime plus ou moins bien, moi j'adore, je trouve que c'est super stylé, et c'est vrai. Ça a super bien vieilli, je trouve. Et on a vu les ventes multipliées par 5, par 10 quand l'anime est arrivé. Hein. C'est-à-dire que, et c'est rigolo parce que dès qu'un arc sort, cet arc-là, on le vend en manga, mais tout de suite.
Du coup, tu vends les 15 ou 20 tomes d'un coup
Presque, ouais, c'est ça. Le mec, c'est ça l'intérêt d'aller chez un spé. C'est-à-dire que tu vas chez ton Cultura à côté de chez toi, ils ont peut-être 3 ou 4, ils n'ont pas la série complète. Là, le mec, qui vient chez un spé. Justement, nous, on fait ce qu'il faut pour avoir les séries complètes. Comme ça, le mec, s'il veut se lâcher, il vient claquer 100 balles, il prend bam.
Son passe culture.
Notamment, bah, bien sûr, c'est comme ça aussi qu'on a fonctionné. C'est-à-dire, les mecs, ils n'est pas obligé de faire 3-4 boutiques pour faire sa collection complète. Il vient chez nous, il a tout d'un coup. Quoi.
Et un adulte qui arrive, qui veut un truc, un peu hardos.
Ardos,
je veux que ça saigne, je veux que.
Alors,
y a du combat,
alors ce qui est cool, c'est que maintenant, on vend aussi de l'héroguro.
Alors.
L'érotique grotesque.
Oh!
Bon, ça c'est un peu hardcore. Ça c'est un peu malsain. Je dirais qu'il y a des trucs, même moi je les ai pas terminés. J'ai fait, voilà, oh là, ça va vraiment loin. Mais ça c'est cool parce qu'à une époque. Alors ça c'est souvent édité par Imo et Les Arts Noirs, qui est une maison d'édition un peu spé, qui sont vraiment là-dedans. Ils font pas que ça. Hein.
Imo, on en a parlé il y a pas longtemps quand Olivier a abordé la fille de la plage d'Asano.
Ouais, tout à fait. Bah voilà, parce que toi c'est celui d'Asano qui est un peu le plus barré, clairement. Voilà. Et c'est pas chez Kana. Voilà, c'est chez Imo parce que justement c'est un peu plus hardcore. Et c'est vrai que ça plaît à un public d'adultes souvent qui est un peu lassé du manga classique et qui veut aller un peu plus loin, limite voir jusqu'où il peut aller. Et c'est rigolo parce qu'une fois sur deux, bah, plaisir coupable. C'est qu'on se dit putain, l'auteur c'est chaud là.
Ouais.
Mais putain, c'était bien.
Ouais,
c'est ça qui est bizarre. C'est qu'il dit, t'as le mec, il est vraiment barré et j'ai aimé. Est-ce que je suis moi aussi barré?
Ouais, non, ouais, c'est.
Des cagots, des machins, c'est des trucs.
On va pas rentrer dans le débat, non. Est-ce que j'ai aimé lire ça ou est-ce que j'aimerais faire.
Oui, alors on ne rentre pas
dans ce débat.
Oui, c'est ça. Non, mais je pense que c'est vraiment. Comment même imaginer l'auteur il puisse aller aussi loin, quoi.
Ouais.
C'est des fois, voilà. Mais non, pour rester sur un public un peu plus saignant, bah, tout simplement le Berserk. Hein, moi, le Berserk. Berserk, je l'ai lu en 95. Mise en édition Samouraï, qui avait fait un peu n'importe quoi parce qu'ils éditaient sans les droits. Donc, mise en édition qui a fermé au bout de 6 mois. Mais ils ont fait Berserk, donc 95 tu tombes sur Berserk, je peux dire que quand t'as Dragon Ball qui passe à la télé et t'as un Berserk entre les mains, tu fais mais c'est ça que je veux plus Dragon Ball moi. Du Hōgenki Clinic, c'était du hentai, un médecin gynéco qui fait des trucs qu'on peut pas dire là, mais terrible, en mode cul, mais avec plein de blagues et tout, son infirmière assistante, incroyable.
Et donc ça, quand tu lis ça, tu fais mais moi je veux plus Nicky Larson.
Bah oui, parce que Nicky Larson était censuré, tu vois, quand il allait dans ses clubs végétariens, en fait c'est les clubs à hôtesse, quand tu découvres ça, alors, tu le sais parce que tu lis des Animeland ou Tsunami, et quand enfin t'as le bouquin entre les mains, tu fais mais en fait il est tout le temps planqué dans ses toilettes en train de lire des bouquins de cul, t'es Kaori qui dit sort des toilettes, en vérité il est en train de se palucher, c'est énorme.
Non, puis, il est toujours en érection, enfin dans la version
censurée. C'est comment on appelle ça, c'est le Mokori, tu le vois avec, c'est génial parce que plus le manga il est top parce que tu le vois, t'as l'impression que c'est son poing qui tient son menton et en fait ça dézoome. Tu vois que le mec il a une gueule d'enfer parce qu'il mate les meufs, tu dis ça c'est pour les gamins, les ados, ouais, c'est ça, ouf. Je comprends que ça a été censuré parce que finalement c'était pas destiné au public gamin, tranche horaire 14-16h le mercredi après-midi quoi. Ah bon, ça aurait dû passer un peu plus tard, bon, voilà. Bref.
Bon,
alors j'ai retrouvé mes questions.
Vas-y.
Comment tu vois l'arrivée de Manga Plus qui prépublie gratuitement sur Internet les derniers chapitres ?
Ah moi j'adore. J'adore parce qu'au moins on arrête le débat du scan de trad où les éditeurs disaient oh bouh c'est méchant, c'est pas beau, c'est mauvais. La vérité c'est sans scan trad. Moi à l'époque j'aurais arrêté le manga parce que j'avais pas l'argent pour m'acheter du manga.
Alors scan trad c'est des équipes de fans qui traduisent eux-mêmes les mangas, qui mettent ça en ligne sans les droits.
Exactement. Et gratuitement, donc ouais. Gratuitement en principe, sinon tu te fais arnaquer. Si tu payes pour du scan trad, tu te fais arnaquer. Et effectivement, moi sans ça, puis j'ai découvert plein de trucs grâce à ça, des trucs qui sont jamais arrivés en France, ou qui sortent en France des fois 10 ans plus tard. Quand The Promised Neverland il est arrivé, c'est un client à moi qui me disait putain, j'ai vu un truc de dingue, il faut que tu lises. Je lis en scan trad, je dis oh, incroyable. La reprise de chez Kazé qui passe, qui dit ah, on va avoir une nouvelle licence, The Promised Neverland. Ouais, t'inquiète, je t'en prends 100. Ah bon ? Oui, t'inquiète, j'ai lu, c'est tout bon. Vas-y. Parce que les reprises font aussi leur boulot, tu vois, c'est des vendeurs, ils te mettent en place des trucs, des fois ils y croient, des fois c'est plus ou moins bon. Bon voilà, là c'était vraiment vraiment bon, là j'étais persuadé que ça allait cartonner, bon bah vas-y, on y va, on fonce quoi.
Mais à terme, t'as pas une peur de répercussions sur les ventes en physique ?
Bah pourquoi ? À l'époque, il y avait des cassettes audio, cassettes vidéo que l'on pouvait copier, ça empêchait pas de vendre, ça empêchait pas de machin. Il y a toujours eu de la copie, c'est pas nouveau, hein. Des trucs illégaux, il y a toujours eu. Hein. Moi sur ma Mega Drive j'avais un copieur à disquette 3 pouces et demi, hein, Magic Drive, ça m'a pas empêché. Aujourd'hui tu viens chez moi, c'est rempli de jeux qui sont pas ouverts, je peux me permettre de les acheter, je les achète. J'ai pas le temps d'y jouer, bon c'est pas grave, ça, le business se fait quand même, j'achète.
Ouais.
Et des fois même en double en version des maths parce que je suis devenu une grosse feignasse et que j'ai pas envie de
sortir. C'est rare que ceux qui sont dans une pratique de piratage ne soient pas déjà des gros consommateurs.
Carrément,
culturels.
Mais t'as tout dit.
C'est-à-dire qu'à un moment donné,
ils comprennent pas ça parce que c'est son mode business.
Oui, non, mais je veux dire, non, c'était pas par rapport au piratage, c'est par rapport à un manga plus.
Oui.
À terme,
les mecs ils veulent faire la collection.
Ouais, enfin,
ils veulent la version physique. C'est quand même plus plaisant d'avoir la version physique entre tes mains.
Alors, toujours, j'ai une question en plus.
Vas-y,
les collecteurs pour tout et n'importe quoi dans le manga, ça va pas tuer le collecteur.
C'est déjà fait.
Oui,
c'est déjà fait. Cet effet que le tome 33 d'Attaque des Titans,
c'est
le mec le repris vient nous voir. Fred vient nous voir, Fred chez Pika vient nous voir et me montre les 6 badges des protagonistes d'Attaque des Titans à moitié à poil dans un sauna. Et là, je me fous de sa gueule. Là, vous allez vraiment. On en rigole. Et à l'époque, on en prenait 30 ou 40 et on mettait 2-3 mois à les vendre parce que ça n'intéressait pas vraiment les gens. Putain, on l'a pas vu venir celui-là. C'est-à-dire qu'on a tout vendu genre en une journée.
C'est celui-là qu'ils ont réimprimé ?
Oh là 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 là, la misère. La misère. Il y a personne. Celui-là, c'est devenu un bordel. Un bordel pour 6 badges.
Ouais.
6 putains de badges.
Bon, on va pas parler de la nuit Naruto. Hein
non, c'était la nuit One Piece.
La nuit One Piece, il y a du bon et du moins bon. On va pas faire un débat là-dessus, mais globalement, je suis content de l'avoir fait. Mais si sincèrement demain Glénat nous demande d'en refaire une, je suis pas sûr de signer tout de suite leur charte. Faudrait qu'on en discute avant.
Il y avait quoi dans la charte qui était...
Interdiction de vendre autre chose que du One Piece. Donc on devait vendre que du One Piece. Ouais. Interdiction, donc je parle en manga et autres. C'est-à-dire que nous, on vend du katana, de la figurine, du machin. Pas le droit de le vendre. Donc c'est-à-dire qu'à 19h, théoriquement, tu fermes ta boutique, tu restes ouvert. Donc ce cosplay en plus et tout, machin, tout ça. Des animations, tout ça, c'est nous qui le faisons.
Ouais,
hein, c'est-à-dire que tu payes tes gens jusqu'à 22h et à partir de 22h, là, tu peux donner les frises. Historiquement, les gens ont acheté en préco parce qu'on ne peut pas leur donner un bordel. Alors, bien et pas bien, on a passé une super soirée, les gens étaient contents, il y a eu une
fil incroyable. À refaire, je te dirais oui, mais pas forcément dans les mêmes conditions. Je t'avouerais que là, on est en train de travailler, nous, pour refaire des nuits spécifiques sur certaines séries, en validation avec l'éditeur, mais on a la main dessus. C'est-à-dire que si on veut vendre de la figurine de, effectivement, qui n'est pas éditée par Kihoun, parce que Kihoun, ils ont les droits, par exemple, de tel ou tel titre, mais ils n'ont pas, les droits des figurines, ça n'empêche pas que nous, on puisse les vendre, faire du business. Faire de la promo, une promo dessus, je sais pas, 10, 20, 30%, ou j'en sais rien, pour faire un truc un peu. Là, le truc de Léna, c'était cool, hein, mais. C'était cadré, hein.
Ouais, c'est dommage, parce que quand tu demandes des trucs comme ça, faut pas se foirer, quoi.
Et alors, dernière question, avant la conclusion, de toutes les séries.
Quoi, déjà
sont... On peut continuer chaud, si tu veux. De toutes les séries
commence,
qui sont apparues depuis,
depuis
moins de 10 ans, qui vendent très bien, laquelle pour toi restera un classique indépassable? Le Dragon Ball de cette génération, c'est quoi pour toi? Tu vas me dire que c'est Dragon Ball?
Non. Non, non, non. Alors, moi, j'ai essayé trois fois de lire My Hero Academia, j'y arrive pas. Mes collègues qui sont plus jeunes me disent: putain, faut que tu fasses le tome 4 à partir du tome 14. Ah ouais,
ouais, ça déco- ouais,
ah ouais, ouais, ben non, parce que je bloque au tome 6 ou 7. Ouais, puis le tome 30, c'est de la dinguerie. Ouais. Moi, je suis en mode seinen depuis presque 20 ans. J'ai besoin de séries courtes, des trucs qui percutent tout de suite. Et, donc My Hero, c'est clair que je pense que ça restera un classique. Dans cet univers un peu shonen, The Promised Neverland, c'est vrai que ça c'est cool parce que c'est 20 tomes. T'as vraiment un gros scénar derrière. Pour des gens qui, même un public un peu adulte, qui voudraient découvrir autre chose que du juste on se tape sur la gueule. Et voilà. Je trouve The Promised Neverland, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que 20 tomes, j'aime bien les séries courtes. 20 tomes, t'as déjà quoi raconter, hein. 20 tomes, ouais. C'est beaucoup, hein. Voilà, quoi.
Ok, bon, on peut...
The Last One?
The Last.
Et bah du coup, t'as pas le droit de taper dans le manga.
Ok. Si, possible.
On en a déjà bien parlé, mais du coup, ça peut être intéressant de voir... ce serait quoi un coup de cœur que t'aimerais partager? Enfin, un coup de cœur, une lecture qui t'a ému, qui t'a interrogé, qui t'a marqué, un truc ou un truc de chevet? BD ou pas
Ouais, parce que effectivement, avant que le manga arrive en 94-95, comme je suis de 78, bah, en gros j'avais déjà 15 ans, j'ai lu d'autres choses avant, hein. J'ai lu du Mickey Para, du Picsou Magazine, j'ai lu du Torgald, j'ai lu du 13, parce que aussi j'avais la chance d'avoir des potes qui avaient des frères plus grands qui nous ont 13, quand je suis tombé dessus, c'était la claque, hein. Pour moi, une bande dessinée, c'était Picsou Magazine. Tant de fil du 13 entre les mains, tu fais waouh. Le démarrage est dingue.
Ouais.
C'est fou. Moi j'ai pris une claque, hein, vraiment. Après, pourquoi j'ai pas continué la bande dessinée? Parce que la bande dessinée c'était 60-80 francs. Quand j'ai lu est arrivé, Dragon Quest
Fly
en version française, Fly, 25 francs.
Ouais, le choix 25 est fait. Francs. Ouais, le choix est fait. Ouais.
Tous les mois, puis c'était pas con, il a déjà tout compris. Tous les mois tu sortais un manga. Quand, là il faut attendre 3-4 mois, voilà. Tous les mois, tu donnais à ton libraire, t'étais camé. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est appris, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui je suis devenu spé manga. Mais ça n'empêche pas d'être ouvert à d'autres lectures. Hein.
Et alors ce serait quoi toi?
Qu'est-ce que t'as moi, toi, Orson Welles, ouais. La guerre des mondes, putain, quand tu vois que ça a été écrit en 1896 ou 98.
C'est H.G. Wells.
Ouais, tu dis quoi?
Orson Welles, c'est celui qui a fait l'adaptation radiophonique.
Ouais. Ah merde.
Non, mais c'est pas grave.
Bah, j'ai pris une claque. Hein. Comment imaginer, le mec, imagine, en 1898, si je ne me trompe pas trop de date ou à quelques années près, comment imaginer ces choses mécaniques alors que dans le roman, ils sont tous en calèche, quoi. Tu vois, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas...
Ouais,
tu vois,
on est au...
Tu vois, ou des mecs comme Jules Verne...
La vapeur, c'est pas encore super maîtrisé, quoi.
Tu vois, bah, on est d'accord, des visionnaires de fous, quoi. Enfin, franchement, après, j'aime beaucoup le cinéma aussi, donc j'ai des potes qui sont très ciné. Tu vois, on a été voir, la semaine dernière, c'était Christine. Il repassait Christine au Majestic.
De Carpenter.
Carpenter, hein. Tu vois, ça n'a pas vieilli, quoi. Le truc, top. Puis on t'explique que finalement, c'est un film, comment on appelle ça, un peu pour lui, puis qui se bouffait, quoi. C'est une commande, hein. Il n'avait pas un budget de fou, et pourtant, tu regardes le film, tu te dis, il a trop bien vieilli. Le truc, incroyable. Incroyable.
Il devait rembourser The Thing, je crois.
Oui, qui a fait un flop. Ouais, le mec, il y avait après un mec qui a pendant une heure et demie, il expliquait.
Encore un truc qui est fait pour rembourser un autre truc. Hein.
Ah oui, non, mais c'est.
C'est quand même quelque chose.
Puis c'est rigolo, parce qu'après, finalement, The Thing, c'est devenu un classique, quoi. Voilà quoi. Donc,
super. Mais du Wells, lire du Wells en regardant du Carpenter.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
C'est beau programme. Hein.
Bah, moi, toi, Dune, tout ça, c'est des trucs qui t'ont marqué, les Star Wars, machin. Quand t'es un gamin des années. Toi, quand 90, t'as 12 ans. Toi, 90, j'ai 12 ans. C'est top, hein, parce que t'as plein de trucs qui émergent, t'as plein de trucs qui sont en train d'être mis en avant. qui performaient peut-être pas à l'époque.
Et avec une accessibilité qui est de plus en plus facile.
Bah oui, parce que tu allais chez ton loueur de vidéocassettes, tu pouvais quand même avoir des trucs. Hein. Alors Massacre à la tronçonneuse, il a fallu attendre des années pour que je puisse le récupérer, parce que c'était vraiment compliqué de l'avoir en cassette. Comme c'est arrivé près de chez vous, c'était censuré, ils n'avaient plus le droit de le passer, enfin c'était un truc de fou. Mais aujourd'hui, t'as accès à tout, c'est top.
Ouais.
Un mec qui est passionné, aujourd'hui, il peut passer toute sa vie sur... C'est top, t'as accès tellement à tout. À l'époque, il fallait vraiment un peu galérer. Quoi. Mais super. À côté de ça, tu trouvais des gens avec qui discuter, t'échanger la passion, c'était génial. Tu discutais comme on fait là, en face à face.
Là aussi, hein, dans l'inconscient des producteurs, ils sont en train de fomenter des trucs de piraterie là, pour nous berner. Non, non, en fait, on s'échange les conseils pour pirater des trucs, mais en fait, on parle culture.
Ah, mais bien sûr.
Filons de titres, de films, de musique. Quand je dis on, nous, on fait pas ça, évidemment. C'est ce qu'on faisait dans le passé. Ou enfin des potes qu'on connaît. Merci
beaucoup. Merci à Flo.
Flo Manga d'Ocase.
Quand tu veux. Avec plaisir.
Et bon festival.
Merci à vous.
Et ben merci encore.
À plus.
À bientôt. Bye. Salut. Ciao.